Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Ce que la photo reproduit à l'infini n'a lieu qu'une fois, disait Roland Barthes. Lui a saisi ses instants, à chaque fois différents, pendant de longues années et a vu défiler les plus grandes stars de son époque devant son gros objectif. Stéphane Bern nous raconte celui qu'on appelait Nadar.
Nous sommes à Paris en 1856. Le poète Charles Baudelaire, 35 ans, pousse la porte d'un atelier de photographie situé au 113 de la rue Saint-Lazare. Dans la seconde, un géant fantastique à la chevelure rousse en bataille et à l'éternelle vareuse écarlate surgit face à lui. C'est son ami Félix Tournachon, l'un des photographes les plus courus de la capitale, celui dont le tout Paris connaît le pseudonyme, un surnom aussi vif que lui, Nadar. Les deux hommes traversent les locaux sous les yeux de Louis Daguerre, l'un des pères de la photographie dont le portrait orne les murs. Nadar installe son modèle dans un décor dépouillé et prend le temps de le mettre à l'aise pour qu'il s'abandonne. Baudelaire est debout, il fixe la chambre noire, une boîte en bois placée sur un trépied, d'un regard noir lui aussi et intense. On ne devine aucun sourire sur ses lèvres fines. Nadar capture cette allure de dandy invétéré, ses poings que l'on devine serrés au fond de ses poches. C'est le portrait miroir du poète maudit, le cliché qui révèle la couleur de son âme. C'est l'art du portrait par Nadar qui immortalisera de la même façon tous les grands noms de la seconde moitié du 19e siècle. Une décennie plus tôt, dans les années 1840, Félix Tournachon est un jeune journaliste fraîchement débarqué de Lyon qui tire de maigres revenus des articles et caricatures qu'il publie dans la petite presse. Puisque la mode est au sobriquet, il signe un jour Tournadar, un autre Nadarchon, puis enfin Nadar. Plusieurs fois par semaine, on le retrouve à un boc à la main au café Momousse. Cet établissement de la rive droite est le lieu de rendez-vous de la bohème et son lot d'artistes sans le sou. Attablé jusqu'à l'aube, Nadar et ses amis critiquent cette société bourgeoise hypocrite et celui qui l'incarne, le tout-puissant Bonaparte, élu président de la République après la Révolution de 1848. Mais pour ces républicains ardents, le pire est à venir. Le 2 décembre 1851, aux premières heures du jour, les hommes de Louis-Napoléon Bonaparte font tomber l'Assemblée nationale et la Deuxième République avec elle. Un an, jour pour jour, après ce coup d'État, le Second Empire est proclamé par celui que l'on appellera désormais Napoléon III. Dès lors, la presse est muselée, la censure fait rage. Comme bien d'autres, Nadar n'a pas le choix, il doit poser son crayon frondeur et abandonner la caricature politique s'il veut éviter de croupir derrière les barreaux. Alors, puisqu'il ne peut plus se moquer du pouvoir, Nadar va s'employer à mettre en lumière ceux que le pouvoir cherche à bâillonner. Il se lance dans un projet d'envergure, la composition d'une fresque sur laquelle apparaîtront plusieurs centaines de personnalités du monde des lettres et des arts. Le résultat, c'est le Panthéon Nadar, une lithographie qui représente un cortège d'esprits libres. On y reconnaît les traits caricaturés de George Sand, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Honoré de Balzac, les Dumas père et fils, Alfred de Musset et plus de 200 autres personnalités du siècle. Le succès est immédiat. Le Panthéon Nadar se vend comme des petits pains chez les marchands d'images et permet à Nadar de jouir d'une certaine notoriété. Pourtant, l'entreprise n'a pas été simple. Chaque portrait dessiné des quelques 250 sujets demande de poser très longuement. Pour aller plus vite, le frère de Nadar, Adrien Tournachon, qui l'assiste, s'est formé à une technique à la pointe de la modernité, la photographie, pour que le temps de pose soit réduit. En 1854, Adrien Tournachon, qui se rêvait peintre, devient donc photographe. Il ouvre son atelier, boulevard des Capucines, à deux pas de l'Opéra, collabore un temps avec Nadar, qui lui finit par racheter le vieux matériel de Louis Daguerre pour installer sa chambre noire quelques mètres plus loin, rue Saint-Lazare. Oui, mais voilà, le plus jeune des Tournachons utilise le même surnom que son frère aîné. Ses clichés sont signés Nadar jeune, ce qui entraîne évidemment quelques confusions. Et voilà qu'un beau jour, le premier Nadar manque de s'étouffer en découvrant que son cadet a fait inscrire sur sa vitrine les mots suivants « Nadar, photographe de Sa Majesté l'Impératrice Eugénie ». Pour Félix, c'est un affront, un outrage, une trahison. Lui, ce républicain convaincu, ne peut admettre que l'on associe le pseudonyme qu'il s'est choisi à un empire qu'il pourfend. Il intente un procès à l'encontre de son frère pour l'empêcher d'utiliser son pseudonyme. À l'issue d'une longue procédure, la justice tranche en faveur de Félix. Nadar, c'est lui et personne d'autre. Si les déboires familiaux des Tournachons attisent les moqueries du tout Paris, ils n'empêchent pas les affaires de fonctionner, et même plutôt bien. Devant l'atelier de Nadar, c'est bientôt un balai incessant de calèches qui dépose tout le gratin des arts et des lettres, si bien que dans la bouche de tous les cochers de la capitale, la rue Saint-Lazare est bien vite rebaptisée la rue Saint-Nadar. Nadar y fait le portrait de l'actrice Sarah Bernhardt à ses débuts. Son œil sensible immortalise les reflets de Gustave Doré, Hector Berlioz, Alexandre Dumas, Théophile Gauthier, Eugène Delacroix et tant d'autres. En 1857, lors du procès qu'il opposait à son frère, Nadar exprimait en ces mots ce que devait être pour lui l'art de la photographie et du portrait. Faites Nadar.
La photographie est une découverte merveilleuse dont l'application est à la portée du dernier des imbéciles. La théorie photographique s'apprend en une heure, les premières notions de pratique en une journée. Tout le monde peut aspirer du jour au lendemain à se dire photographe sans témérité. Ce qui ne s'apprend pas, je vais vous le dire, c'est l'intelligence morale de votre sujet. C'est ce tact rapide qui vous met en communion avec le modèle et vous permet de donner, non pas banalement et au hasard, une indifférente reproduction plastique à la portée du dernier servant de laboratoire, mais la ressemblance la plus familière et la plus favorable, la ressemblance intime.
Mais alors que les ateliers de photographie se multiplient sur les boulevards, Nadar trahit bientôt ses idéaux artistiques. Au début des années 1860, après avoir immortalisé l'intelligentsia parisienne à sa manière, Nadar voit son activité diminuer. Depuis quelques mois, les Parisiens s'arrêtent moins chez lui. Ils vont chez son principal concurrent, Eugène Disdéry, installé boulevard des Italiens. Ce photographe rencontre un franc succès depuis qu'il a inventé le portrait carte, un cliché de petit format beaucoup moins cher. Alors Nadar doit s'adapter. Il quitte la rue Saint-Lazare pour s'installer au 35 du boulevard des Capucines. Cet atelier bien plus grand est inondé de lumière par d'immenses verrières. Sur la façade, le portraitiste fait installer une enseigne en grandes lettres rouges, éclairée au gaz. On y lit sa signature, ce pseudonyme connu de tous, Nadar. Il retrouve une clientèle massive, photographie encore Édouard Manet, Georges Clemenceau, Gustave Courbet ou Jules Verne. Saisit Victor Hugo et sa barbe blanche et réconcilie George Sand avec la photographie, elle qui avait détesté le premier portrait que l'on avait fait d'elle. Mais la passion n'est plus la même. À quelques exceptions près, ce ne sont plus ces portraits artisanaux dans lesquels il captait l'intimité de son modèle. Ce sont des portraits réalisés à tour de bras. C'est la photographie à la chaîne que son ami Baudelaire condamne dans un pamphlet, fustigeant ce public moderne qui se rue comme un seul narcisse pour contempler sa triviale image sur du métal. Cette photographie commerciale ennuie Nadar. Il délègue de plus en plus à ses assistants et fuit dès qu'il le peut son atelier. Félix l'espiègle veut expérimenter. Il s'en va sous terre et dans les airs. Il est le premier à photographier les catacombes et les égouts de Paris, grâce à une lumière électrique dont il dépose le brevet. Il est le premier ensuite à réaliser des clichés aériens de la capitale, embarqués dans un ballon plusieurs mètres au-dessus des boulevards. Nadar délaisse peu à peu les grands noms de son siècle en même temps qu'il commence à disparaître. Sur son panthéon d'artistes réalisé au début des années 1850, où il s'était lui-même caricaturé, il avait adressé un message plein de malice aux générations suivantes. Vous le faites, Mathieu ?
Moi, volontiers. Dédicace au monsieur que je regrette de ne pas connaître et qui, en l'an 3607, courra les enchères comme un chien perdu pour acheter à prix d'or cet exemplaire de mon panthéon devenu introuvable et dont il ne pourra se passer pour son grand travail sur les figures historiques du XIXe siècle.
Nul doute que son panthéon de dessins et de photographies est un trésor pour les générations actuelles et celles de demain aussi.
Europe 1,
historiquement vôtre.